Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune, du lundi au vendredi, de 17h30 à 18h30.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes lundi 6 novembre 2023, il est 17h30 pile et vous êtes sur Prune 92 FM. Bienvenue dans Curiosité, votre émission quotidienne d'actualité locale. Je m'appelle Martin, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à l'antenne chaque lundi avec mon équipe pour une heure de programme sur l'actualité de Nantes et ses environs. Ce matin, c'était la rentrée scolaire pour la majorité des étudiants, vous avez plein de choses du coup à raconter et ça tombe bien, nous aussi on a pas mal de choses à vous dire. Alors du coup, sans plus tarder, je vous présente tout de suite le programme d'aujourd'hui. Pour commencer, nous accueillerons du coup, nous ferons un interview avec Enzo. Salut Enzo.
Salut.
Alors déjà, bon retour de tes vacances. Hein.
Merci, merci.
Nous parlerons de voyages et d'aventures dans le cadre du Festival Nantais des Grands Voyageurs Nature Nomade qui se déroule du coup cette semaine. Enzo vous en parlera plus en détail et nous avons la chance de recevoir notre invité du jour, Ingrid Morel. Bonjour Ingrid.
Bonjour Prune.
On continuera avec une pause cadeau, ce sera Esteban, notre papa Noël généreux, qui vous offrira de nouveau de belles surprises, alors restez toujours à l'antenne. Nous continuerons avec un portrait de vie présenté par Prisca. Salut Prisca.
Hello Martin.
Prisca vous présentera Histoire au bout du fil dans le cadre de l'opération Lire en circuit court, des comédiens qui sont par téléphone. Alors c'est un bon plan, elle vous expliquera plus en détail juste après. Donc tout de suite, c'est curiosité, allons-y.
Curiosité, le Zoom Actu.
Le voyage n'aura jamais été un sujet aussi controversé qu'aujourd'hui. Comment ne pas céder à la tentation du voyage lorsqu'on en a les moyens? En ces fins de vacances, qui ne rêve pas déjà de repartir? Alors il est étonnant de voir que l'une des priorités de 8 Français sur 10 est de pouvoir construire leur propre propriété. La seconde est celle de pouvoir voyager ou partir en vacances dès que possible. Au fond, nous semblons toujours être attirés par un besoin d'ailleurs, de nature, de découverte, de découvrir le monde. Quand bien même un voyage peut s'effectuer non loin de chez soi, aujourd'hui les désirs de grandeur, de grande aventure lointaine embarrassent. Et oui, l'avion est au cœur de toutes les polémiques écologiques. Il y a comme du plomb dans l'air. Si l'avion ne représente que 2% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale, ces pourcentages sont susceptibles de tripler d'ici à 2050. Alors comment assouvir notre soif de découverte du monde si riche et divers tout en le respectant? C'est tout un imaginaire mais aussi une manière de penser le voyage que la sobriété aérienne vient transformer. Et pourtant ici c'est une autre forme de voyage que nous vous proposons, celui de la littérature, du cinéma, de la photo, de l'art, du voyage plus que nature. Alors si vos envies de nature sont pressantes, cela tombe très bien. Car ce week-end du 10 au 12 novembre, c'est la 7e édition du festival Nature Nomade qui aura lieu au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes ainsi qu'à la librairie de voyage Géothèque parmi d'autres lieux. Mais qui de mieux que de nous en parler qu'Ingrid Morel, membre de l'association Nature Nomade. Rebonsoir Ingrid Morel. Ma première question, que vient-on chercher au festival Nature Nomade ?
Bonne question. On vient chercher, je pense, parce que chacun vient chercher un peu ce qu'il veut aussi, de l'évasion. Et surtout, je pense, à travers Nature Nomade, d'une manière de voir le monde autrement ou de se libérer l'esprit peut-être, d'être curieux de l'autre, d'autres territoires, aller côtoyer le sauvage, aller côtoyer des auteurs qui nous racontent leurs expériences et leurs récits, pas dans leurs exploits, mais dans leur manière d'appréhender notre planète, dans ce souci de la comprendre, de la préserver. Et je pense qu'on vient juste s'évader, en fait, discuter, débattre éventuellement. C'est assez ouvert.
Septième édition de ce festival, c'est-à-dire que c'est que ça fonctionne, c'est qu'il y a une continuité. Quel était son projet initial? Quel était le concept de base, si je parle comme en marketing?
Alors c'est parti très simplement, le plus simplement du monde, j'aimerais dire même de manière très conviviale, entre amis, passionnés de littérature, passionnés de voyage aussi, qui sont pas forcément lointains, qui peuvent être tout à fait sur Nantes ou juste autour. avec l'envie de d'essayer les expériences, envie de le partager. Donc avec des amis qui font partie de la géothèque, donc elle a libéré des voyages de Nantes, qui est très spécialiste, et une bonne entente avec le musée d'histoire naturelle, parce que c'est vraiment un partenariat qui matche bien, et on s'est dit, nous on a envie d'en parler, vous avez des beaux lieux, ils sont positionnés sur une sensibilité ou de la connaissance sur la nature, donc ça tombait bien, et on s'est dit, allez banco, si on essayait... Et on a essayé comme ça, quoi, sans trop savoir. Voilà. Puis après, vite fait, ça a pris. Il a fallu constituer une asso. Il a fallu.
L'association s'organiser. Naît du projet de faire un festival.
Exactement.
D'accord, je pensais qu'elle avait une histoire avant.
Non, c'était parti sur un coup de tête. Puis à un moment donné, on s'est dit, il faut quand même un peu structurer les choses. Quoi.
Et pour cette 7e édition, vous avez choisi un thème, puisque chaque année, il y a un thème différent. Et celui de cette année, ce sont les îles du Pacifique, de l'océan Indien. Pourquoi avoir choisi ce thème des îles ?
J'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Il y a les îles qui est notre fil conducteur cette année, mais pas que. Hein. C'est loin d'être que autour des îles. Mais on a eu surtout cette année la chance de pouvoir inviter Titou Apeu, qui est originaire de la Polynésie française et qui a été une écrivaine, parce qu'elle est bien vivante, qui a parlé de ces îles avec un petit peu l'arrière-vitrine du côté rêve de ces îles-là. Et comme nous, on adore ce genre de choses, qui n'est pas de me mettre que le côté pimpant ou brillant en avant et de savoir un peu ce qui se passe dans les coulisses. Et voilà, donc elle avait pu venir, donc on a orchestré à travers sa présence des conférences et des rencontres d'auteurs grâce à elle. Et puis après, ça s'est décliné, soit en complément à travers d'autres sujets liés aux îles, mais pas que, parce qu'on ne va pas parler que des îles.
Il y a aussi au sein des îles, comme vous avez dit, d'aller plus loin vers les peuples. Il n'y a pas qu'un côté nature, je veux dire, dans le festival.
C'est la grande question, c'est que nous on voit la nature avec un grand N et l'homme en fait partie. Donc l'idée c'est d'aller questionner ça, c'est d'aller s'intéresser encore une fois au monde du sauvage et découvrir un peu des régions ou des territoires qui sont peut-être peu connus ou mal connus ou un peu biaisés, enfin essayer d'en parler dans leurs origines. Et ces territoires-là sont bien souvent peuplés, que ce soit par des animaux, des plantes ou des hommes. Et l'idée c'est d'aller questionner un petit peu cette posture de l'homme au milieu de tout ça, au milieu du sauvage. Donc, c'est la nature avec un grand N, j'insiste.
Ça prend toute la diversité qui est là.
Surtout, c'est dans l'air du temps de se repositionner par rapport à notre environnement, par rapport à tout ça. Donc.
Et d'ailleurs, est-ce que le festival se veut écologique aussi ? Quand on parle de voyage, est-ce qu'on appelle au voyage à travers ce...
Non, pas du tout. C'est vraiment un espace... forcément, indirectement, ça va peut-être donner des envies ou inspirer. Bien évidemment, mais c'est pas l'idée. Nous, on n'est pas agents de voyage. On veut ouvrir le monde et avoir un avis, pourquoi pas assez affiné, assez affûté, avec des gens qui vont partager leurs expériences avec ça. Donc, c'est assez ouvert, quoi. Mais derrière, soit on débat, on se pose la question de c'est quoi comment cohabite l'homme avec ces histoires-là, entre eux, avec encore une fois les animaux, la nature, voilà. Donc c'est plus vraiment de réfléchir à notre planète, quoi. Maintenant, il y a forcément, on a des valeurs, on fait passer des messages un petit peu, mais les auteurs sont complètement libres. Donc on les choisit un peu dans cette indépendance de pensée. C'est pas orienté. Après, si ça peut donner des envies de voyager et de pas n'importe comment en tout cas, et d'aider à poser le regard de manière assez précise et consciencieuse, tant mieux. Puis si ça permet à d'autres personnes qui peuvent moins voyager de rêver un peu, tant mieux aussi.
Aussi, ça fait. Oui, on voyage dans les deux sens.
Voilà.
J'ai vu aussi que vous, en parlant toujours sur le thème écologie, qu'il y avait des interventions. Il y aura des interventions sur les nouveaux modes de voyage avec d'autres outils, enfin d'autres moyens de transport, comme j'ai vu. Je sais plus ce qu'il y avait. J'ai plus le nom d'un animal. Il y a plein d'autres moyens. Et vous voulez montrer ça aussi?
L'idée, c'est de... Il y a un peu de tout. L'idée, c'est de repositionner le fait que on peut prendre le temps de voyager. Et l'idée, c'est de vraiment prendre le temps de s'imprégner des choses, de ne pas le faire n'importe comment, d'être dans la posture de l'invité, quel qu'il soit, que ce soit par rapport aux communautés rencontrées ou que ce soit encore dans le milieu du sauvage. Et donc, ça peut se faire à pied, ça peut se faire à vélo. Il y a effectivement Stéphane Dugas qui vient nous raconter sa diagonale du vide en vélo. Ce qu'on appelle la diagonale du vide, c'est... du nord-est jusqu'au sud-ouest de la France,
qui est moins peuplé,
qui est moins connu. On a des expéditions scientifiques aussi en bateau, où là, c'est plus pour parler des abysses et des personnes qui sont allées sur des bateaux pour aller faire des observations du monde qu'on connaît moins,
des profondeurs,
voilà. Donc là, forcément, d'office, ils étaient en bateau. On a Maxime Aumont qui vient nous raconter ses histoires avec ses machines inventées. Donc lui, ouais. il avait besoin de se libérer un petit peu de nos latitudes et il a voyagé avec des machines qui s'est créées, qui sont très insolites. Mais c'est un peu difficile à expliquer. Mais ouais.
Vous allez chercher les gens qui viennent où le festival a gagné un peu de notoriété et vous avez des gens qui sont intéressés pour participer, des scientifiques ou autres.
Complètement. Ah, oui. On est arrivé à ce stade-là, donc c'est un peu notre fierté. C'est qu'au bout de 7 ans, le festival commence à vraiment prendre une belle notoriété, je dirais, et que ce soit dans le milieu professionnel où il y a des éditeurs qui nous ont dit c'est quand même très pro, alors qu'on est quand même tous que des bénévoles, oui. Hein, j'insiste, c'est que du plaisir, là. Donc là, ça fait plaisir, donc de fil en aiguille, il y a du bouche à oreille qui se fait, et effectivement, on reçoit... on se retrouve dans le luxe de refuser, quoi.
Voilà. Ouais. Ah, c'est super.
Voilà.
Et il y a aussi une partie fiction, littérature. Ça vous tenait à cœur de mélanger ce côté. Il y a des BD, je crois, j'ai vu dans la programmation. Vous invitez la littérature aussi dans le.
Il faut qu'il y ait un bouquin ou une œuvre littéraire à la clé. On n'est pas un festival de films d'aventure ou de choses comme ça. Il n'y a pas beaucoup de documentaires ou de visuels, ce n'est pas l'idée. Nous, c'est vraiment de mettre des écrivains en scène. Donc ça peut être de la belle photographie. Encore une fois, on a eu par exemple Anthony Berberian qui fait des photos des abysses, où c'est surtout un visuel et des belles images d'espèces que c'est impossible à rencontrer sans plonger comme il l'a fait. Et on a, j'ai perdu le fil, on a...
dans le côté littérature
dans le côté littérature, oui, on a Davodo, donc Étienne Davodo, qui lui a un support BD cette année. Pareil, pour aller questionner un petit peu les territoires et l'impact un petit peu sur l'environnement. Mais c'est pas, ça peut être des récits, ça peut être des romans, on a déjà eu des polars. Tous les supports du moment qu'il y a une œuvre écrite peut être illustré et on prend.
Vous prenez.
Il faut que ça nous intéresse. Il faut que faut qu'on ait plaisir à le lire, quoi.
Puis pour le transmettre.
Pour le transmettre et puis aussi parce que faut que ça reste du fun, quoi. Nous, encore une fois, on est des bénévoles, donc on veut s'amuser et on a envie de rencontrer des gens qui nous intéressent.
Oui. Alors, ce festival est aussi pour un large public. Vous proposez des choses aux plus jeunes?
Oui, il y a des ateliers jeunesse qui permettent, du coup, au sein du musée d'histoire naturelle, c'est pour ça que c'est très bien fait, le lieu compte beaucoup pour le festival, parce que c'est très complémentaire. Il y a un endroit où on peut dessiner, on peut faire des ateliers, des carnets, apprendre à soit dessiner un peu de la faune, ou, c'est ludique, quoi. Donc il y a des petits ateliers jeunesse, il y a des séances qui peuvent être intéressantes pour accueillir des enfants, puis d'autres qui sont plus intellectuels, où là, bon, ça sera pas forcément évident pour eux. Mais l'idée, c'est pas de se fermer les publics, au contraire, c'est d'ouvrir... Ouais.
Apporter les familles.
Les familles, et c'est ouvert à tous les âges, quoi. Après, tous les thèmes ne sont pas forcément adaptés, selon l'infinité, selon
les âges. Des nouveautés sur cette 7e édition, comparées aux autres? Vous avez apporté quelque chose de nouveau?
Cette année, pas beaucoup plus que ça. On est plutôt en train de s'organiser dans ce petit succès où on consolide. La nouveauté, ça a été plutôt il y a 3 ans, où on a créé un prix littéraire. Donc ça fonctionne bien, oui. On le renouvelle. Les ateliers sont en place depuis un bout de temps. Une autre nouveauté par rapport à... ça fait déjà 2 ans, c'est qu'on opère hors les murs aussi, pas que dans le musée de l'histoire naturelle. Donc ça a commencé déjà depuis le week-end dernier, dans des médiathèques ou des bibliothèques dans la région. Mais on ne peut pas dire que cette année, il y a de réelles nouveautés. Non, on est plutôt en train de consolider le flux et faire en sorte qu'on puisse faire la même qualité, quoi. Parce que sinon, on ne cherche pas à être très ambitieux non plus. On se capte.
Il y a des limites à votre projet. Ouais, c'est-à-dire que vous allez rester sur la base de l'histoire, du muséum, de la librairie.
Voilà. Puis le musée a quand même aussi ses capacités. L'amphithéâtre ne fait que 114 places. À l'étage, il n'y a que 30 places pour les cafés littéraires. Enfin, on est aussi limité par
l'espace.
Par l'espace.
Mais vous avez des objectifs sur cette édition-là?
De faire au moins aussi bien que l'année dernière, donc complet, quoi.
Complet. Ça fait combien?
Voilà. Sur l'année dernière, on était à peu près entre 2000 et 2500 visiteurs, en tout. Donc ça veut dire aussi pendant les séances hors les murs, Et puis pendant le festival, où il y a plus d'une vingtaine de conférences, une dizaine de cafés littéraires qui ont été... Nous, l'idée là, ce serait de réussir à pouvoir accepter tout le monde, en fait. Parce qu'on est vraiment limité par des questions aussi de sécurité au musée. Quoi.
Et donc, quelles seront les principales activités ou temps forts de cette année auxquelles on peut assister, selon vous?
Alors là, clairement, c'est...
Parce que vous choisissez, vous faites le programme avec les autres bénévoles. Donc, s'il y avait un temps fort auquel il faudrait assister?
Oh là là, ça c'est la question piège, parce que honnêtement, je pense qu'elles vont être toutes très intéressantes. Il y a l'inauguration vendredi soir, où je sais qu'il reste encore un peu de la place avec le documentaire de Michel Izard sur l'île aux cochons. Donc là, ça va être l'inauguration, forcément c'est un temps fort, puis la remise du prix littéraire. Donc là, c'est un petit peu suspense, on ne vous dira pas qui a gagné, mais c'est un moment assez sympa. Maintenant, honnêtement, ils sont tous intéressants. Je ne peux pas vous dire là plus qu'un tel, quoi. C'est juste Mission Impossible.
Vous mettez combien de temps à faire ce programme?
On bosse toute l'année.
Ah
ouais, c'est vraiment un boulot de toute l'année.
À construire le programme, à inviter les gens, à démarcher peut-être,
à
même
les
si vous
auteurs.
Refusez maintenant aujourd'hui.
Ouais. Non, ça, c'est, je me la pète un peu en disant ça, mais on va aussi en démarcher. Et, donc le temps de contacter soit les éditeurs, soit les auteurs, organiser les modérateurs... organiser le montage des subventions, montage financier, tout ça, ça nous prend toute l'année. Alimenter le site, être tant bien que mal à jour par rapport à ça.
Et donc, quand une édition se termine, vous pensez déjà à la suivante?
Ah ben là, je suis déjà en train de monter les stratégies pour 2024.
Ah.
Ouais, on en est là. Donc ça devient... Ah. Ouais, c'est pour ça, grossir plus, là, ça devient très compliqué.
Oui, ça fait vite...
ouais, ça devient un boulot, ça devient un vrai boulot, quoi. Donc, c'est toute l'année. Clairement toute l'année. Après, selon les postes, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on s'entend suffisamment bien tous au bureau pour se répartir les tâches. Donc chacun son temps, quoi. Donc en fonction des sujets, forcément en ce moment, c'est plutôt la personne qui s'occupe des relations presse et communication qui est sur le pont. Moi, je m'occupe de la trésorerie, donc je suis sur le pont toute l'année sur les montages de financement ou les bilans. La géothèque qui coordonne la programmation, je sais qu'ils ont déjà des plans pour l'année prochaine, quoi.
Ah, oui, vous travaillez aussi en lien avec eux?
Ah, on est tout le temps, on est main dans la main, on est tout le temps ensemble.
Et aujourd'hui, vous avez besoin d'agrandir l'association, accueillir plus de monde pour pouvoir...
On ne se pose pas cette question-là. Pour l'instant, on essaye de tenir le festival tel qu'il est et dans sa qualité. On n'est pas encore... On se pose pas trop de questions trop à l'avenir, surtout que le musée va être certainement en travaux là dans les années à venir, donc il va falloir qu'on trouve un lieu peut-être en attendant.
Une alternative.
Ouais, donc on n'a pas. Puis même s'il y avait des ambitions, vous le direz pas là. c'est secret.
C'est ce qu'on essaie de chercher avant tout. C'est d'exclus. Alors il faut. Est-ce qu'il faut réserver pour aller au festival? Est-ce qu'on peut s'y rendre comme ça?
Il est préférable de réserver en ligne, clairement, sur notre espace billetterie, parce qu'il y a déjà des conférences complètes. Hein, et ça nous permet aussi beaucoup de gérer en amont le flux au musée, qui est encore une fois limité en termes de fréquentation. Donc non, on invite absolument à aller réserver avant, soit sur notre site internet, directement.
Naturenomade.fr,
il y a un espace billetterie, c'est très fluide, très facile, très instinctif. Ça permettra d'avoir un ticket, d'avoir nous les noms. Et du coup, au guichet, si jamais il y en a un qui a perdu le billet, j'en sais rien, on peut le retrouver, donc on peut s'organiser beaucoup plus sereinement sur place. Si toutefois, il n'y avait pas réussi à avoir quoi que ce soit, et on aura un guichet le jour J pour ce qui reste, mais ça risque d'être là où il reste de la place, ce sera moins confortable, quoi. On fera ce qu'on pourra. Et deuxième possibilité, si les personnes ne sont pas à l'aise d'aller sur un site internet ou acheter un billet sur le site, ils peuvent aller à la géothèque directement.
Il y a des billetteries à la géothèque.
Ouais. Un guichet physique qui permet des fois, pour certaines personnes, de se sentir plus à l'aise.
Donc là, vous la sentez bien, cette session? Elle est presque complète?
Elle est bien, bien partie, ouais. On la sent bien.
Donc pour ceux qui nous écoutent, il reste encore des places?
Il reste des places.
Il
reste des places un peu partout, sauf pour Étienne Davodo, Arpenter le paysage, là, c'est fini. Mais il reste encore des petites places par-ci, par-là. Ouais.
Ce sera ma dernière question. Vous avez une phrase pour nous convaincre d'aller à votre festival ce week-end? En une phrase?
On s'éclate.
Eh bien, merci. Eh bien, merci, Ingrid Morel, c'est ça? Ingrid Morel, j'avais plus le nom sous les yeux, de l'association Nature Nomade pour votre festival Voyage Nature ce week-end 10, 11, 12 novembre.
Exactement.
Au Muséum d'Histoire Naturelle et à la Géothèque.
Un grand merci, Prune.
Merci Enzo et merci Ingrid pour cette interview. Tout de suite, comme je vous l'ai dit, c'est désormais du coup la pause cadeau. Donc nous accueillons du coup notre généreux Papa Noël Esteban qui nous réserve du coup juste après ce petit court temps de musique. Alors du coup, pour la musique, du coup, ça sera Amy Winehouse, un live du coup de 2006 qui était Tears Dry on the Own. Bon, excusez-moi pour l'accent, mais en tout cas, vous avez certainement compris. C'est tout de suite.
All I can ever be to you is the darkness that we knew and this regret I got accustomed to. Once it felt so right when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had a man for match with every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't owe nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I am wrong. And in your way, in this blue chain, my tears dry on their own. I don't understand. Why do I stress a man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman soon. I cannot play myself again. I should just be my own best friend. I play myself in the head where stupid man. I could say no regrets, no emotional, no debts. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, your shadow covers me. The sky above a blaze and only love is here. It walks away, the sun goes.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Prune 92 FM, toujours dans Curiosité. Tout de suite, ce sera la pause cadeau. Alors oui, vous êtes restés évidemment pour entendre la voix d'Esteban, du coup notre généreux Papa Noël, qui nous réserve toujours une belle surprise pour vous gâter avant Noël, avant l'heure. Donc oui, c'est tout de suite à l'antenne. Cadeau.
Ce soir, Prune te fait gagner deux places pour le Catapulte Festival qui aura lieu le jeudi 9 et le vendredi 10 novembre 2023 à Stéréolux. Nouvel événement nantais, ce Catapulte Festival est un pied de nez au Pitchfork Music Festival Paris puisque les 8 groupes présentés sur ces deux jours joueront tous au Festival parisien. le festival propose une programmation d'artistes alternatifs rock, hip-hop, pop et électro qui fait la part belle à l'avant-garde musicale indépendante, orientée nouvelle scène et jeune pousse en devenir. À Nantes, sur les deux soirées, une sera orientée rock, l'autre plutôt hip-hop R&B. Bref, deux jours pour découvrir les artistes qui feront l'actualité de demain. Et information importante, ce concert à Stéréolux est accessible aux personnes à mobilité réduite. Alors, pour avoir la chance de gagner deux places pour le concert rock de jeudi ou deux places pour le concert R&B de vendredi, envoie-nous un emoji champignon sur l'Instagram de Prune. Et on se laisse avec la suite de l'émission, et tout de suite le morceau Nausea du groupe irlandais Guerriers qui sera présent à la soirée du jeudi du festival. Bonne écoute!
Vous êtes toujours sur Prune 92 FM, il est 18h, vous venez d'écouter le morceau que vous pouvez gagner au Stéréolux grâce à la pause cadeau avec Esteban, donc n'hésitez pas à jouer sur nos réseaux sociaux. Tout de suite, nous enchaînons avec Prisca et nous recevons également Anne-Gaëlle Gauduchot. Bonsoir Anne-Gaëlle.
Bonsoir.
Alors Anne-Gaëlle est une des artistes conteuses que Prisca vous présentera dans le cadre de Histoire au bout du fil, dans le cadre de l'opération Lire en circuit court. Alors vraiment, pour vous expliquer très brièvement, du coup, des comédiens sont au téléphone et lisent en fait pour vous au creux de l'oreille des textes d'auteurs à la, de la région. Ouais. C'est gratuit, c'est un bon plan. Alors du coup, allongez-vous, prenez votre téléphone, laissez-vous guider par l'histoire de Prisca qui s'est plongée pour vous expliquer tout sur ce bon plan. C'est tout de suite.
Ah oui, la pression quoi. Auditeurs, auditrices, bonsoir chez vous. Notre invitée de ce soir est une globe conteuse. Vous allez bien, Anne-Gaëlle Gauduchot ?
Ça va très bien.
Alors, eh bien, on dit que vous êtes globe conteuse parce que, oui, Anne-Gaëlle, pardon, fait partie de ces artistes qui ne rentrent dans aucune boîte.
C'est ça.
D'abord, comédienne du très sérieux théâtre contemporain, artiste conteuse et auteur du récit. Chanteuse d'histoire du monde entier, elle est tout simplement inclassable. Vous êtes d'accord sur ça ?
C'est ça, tout à fait d'accord.
Alors, vous êtes également la créatrice de la compagnie La Lune Pousse. Sur le site, justement, je lis ceci. La compagnie cherche et met en évidence la merveille dans l'ordinaire et invite l'auditeur spectateur à nourrir son imaginaire, organe vital s'il en est.
Yes.
Fin de citation. À quel moment avez-vous eu l'idée de créer une telle compagnie, ou du moins
une telle merveille ? On rentre à la préhistoire, vous n'étiez pas née.
Ah ouais.
C'est la compagnie La Lune Rousse, elle a été créée en 91. Vous voyez ?
Wow.
Donc ça commence à dater. Pourquoi j'ai fait ça ? Franchement, il y a des jours où je me demande, mais... à ce moment-là, il n'existait pas vraiment de structure. En tout cas, je n'en connaissais pas des structures qui... Moi, je venais du théâtre et des compagnies de théâtre, il y en avait plein. Des gens qui faisaient du conte. Et en plus, moi, je n'avais pas d'enfants, donc je racontais pour les adultes. Et ça existait très peu, pas en fait. Donc voilà, ça s'est créé comme ça.
Alors là, c'est vrai qu'en 91, je n'étais pas encore née.
C'est ça, mais, ça fait drôle.
Coup, ouais. Mais pourquoi vous avez choisi d'appeler La Lune Rousse ?
Oh là là, ça aussi, c'est... alors, comment c'est venu ? On était plusieurs à réfléchir. La soirée s'est prolongée assez tard. Il me semble qu'il y avait une histoire de... On voulait quelque chose qui soit poétique, mais on voulait vraiment que ça ressemble pas à un truc pour enfants. Alors, il y avait quelqu'un qui parlait d'Higelin, cet album de Jacques Higelin, avec une chanson dans les cimetières. Et il y a une histoire de Lune Rousse. Et puis, il y a quelqu'un qui a parlé d'un poème de Garcia Lorca. Enfin, je sais, franchement, je sais plus. C'était quand même avant ta naissance.
Ah ben oui,
j'ai une bonne mémoire, mais bon.
Alors, dites-nous, parmi vos propositions, il y a les fameuses histoires au bout du fil.
Ouais.
Sur le site d'Histoires au bout du fil, justement, on lit ceci. À l'été 2021, la compagnie La Lune Rousse et 30 artistes du spectacle vivant en Pays de la Loire lancent une offre culturelle originale en plein confinement. En quelques mois, ils répondent à des centaines de demandes, lisent de la poésie, des romans, chantent, racontent, quelquefois les yeux fermés, le cœur ouvert, dans une écoute attentive du moment qui se vit.
Wow.
À travers ces séances, à chaque fois singulières, toutes témoignent aujourd'hui d'avoir affûté plus que jamais leur outil d'artiste et redécouvert un sens fort à leur travail comme une source de gestes artistiques. Fin de citation. Alors, c'est donc quelque chose qui est né pendant le Covid, mais qui perdure aujourd'hui. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à travers ce format vraiment original ?
Eh bien, c'est pas à des gens qui font de la radio que je vais apprendre ça, mais quand on n'a pas d'image et quand on a juste le son, l'imagination décolle vraiment vite, quoi. Donc, à travers ce format-là, il y a ça, l'idée que les comédiens, les conteurs, les chanteurs emmènent les gens en voyage imaginaire vraiment sensible avec ce format. Puis après, il y a aussi plein de gens, on l'a découvert pendant le Covid, mais ça reste toujours vrai aujourd'hui, il y a aussi plein de gens qui sont tout seuls, sont isolés. Et moi, je me souviens par exemple d'avoir eu une dame au téléphone qui m'a dit « Moi, je me sens misérable. Je vis toute seule. Je ne vais pas au restaurant toute seule, parce que là, vraiment, je me sens encore plus seule. Les vacances d'été, je vois les couples sur la plage. Moi, je suis toute seule. Je me sens vraiment misérable. Et le spectacle aussi. » Mais elle me dit, alors maintenant que je vous ai connue au téléphone, vous faites des spectacles aussi dans les salles et tout ça, je pourrais venir vous voir, puis je viendrai vous voir en coulisses et tout ça. Bon voilà, il y a aussi plein de gens qui sont tout seuls, et, ou bien qui ne peuvent pas bouger. Voilà, tu as un accident et tu es condamné à rester un moment à l'hôpital. Si tu n'as pas envie de te gaver de télé, tu peux faire ça aussi.
Ah oui, et donc, ça fait partie des témoignages positifs.
Ouais.
Et justement, est-ce qu'il y a peut-être des témoignages négatifs à quelque part?
Négatifs, des gens qui ne seraient pas contents qu'on les appelle?
Oui, peut-être.
normalement, ils ont pris rendez-vous. Donc, c'est eux qu'on choisit. Bon, voilà. Après, il y a une dame, par exemple, une très vieille dame, elle a 98 ans, je crois, et elle a pris des rendez-vous avec pratiquement tous les artistes des histoires au bout du fil. Elle est moitié aveugle, elle n'est pas sortie de chez elle depuis 2017, et c'est vraiment un moment super pour elle. Mais de temps en temps, elle dit « Ah non !» Ah, c'est vous? Ah oui, non, mais là, c'est pas le moment, je suis de mauvaise humeur. On reprendra un rendez-vous plus tard. Bon, ben, ah ça oui. Y est, maintenant, on est au courant. Et on ne se formalise pas, voilà.
D'accord. Mais pour revenir un peu aux relations humaines, j'ai lu sur votre site qu'il y a un fort besoin de contact humain. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas assez de contact entre les humains?
Je ne sais pas, d'après vous. je trouve que... déjà, on pourrait dire qu'il n'y en a jamais assez. Des contacts humains. Mais en plus, on vit dans un monde où les choses vont super vite. On cavale. Enfin, je ne sais pas si vous faites ça, mais j'ai l'impression qu'on cavale tous de plus en plus, qu'on n'a pas le temps, même les copains, on n'a des fois pas le temps de les voir et tout ça. Et donc, y a plein de gens qui rencontrent des gens au boulot et tout ça, mais des contacts humains, vraiment, quoi. Ça manque.
J'ai lu aussi que vous intervenez parfois dans les hôpitaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter une scène de contact téléphonique à l'hôpital, par exemple, en plus, bien sûr, de la dame de tout à l'heure?
Eh bien, oui, je vais vous en raconter une. Je vais changer son nom parce que ça ne serait pas très sympa de... Enfin, bon, voilà, ça serait un peu indiscret. Mais il y a un monsieur qu'on a eu au téléphone. C'est un des comédiens qu'il a eu au téléphone et son fils nous a appelé après en disant c'est quoi l'histoire que vous lui avez racontée, parce que il me dit que depuis qu'il a eu ça, il rêve de cette histoire. Alors on cherche et puis on lui envoie. C'était une histoire l'histoire d'un peintre qui peint un tableau. Il peint la mer et c'est tellement bien peint que l'eau déborde du tableau et puis il se retrouve dans l'eau. Alors vite il peint un bateau et il monte dessus, et puis il peint des voiles, et le vent, et il prend le large. Et donc voilà, on envoie ça au monsieur, qui quelque temps nous appelle, et nous dit, bon, mon papa est mort, mais je voulais vous appeler, parce que ça me fait du bien d'imaginer qu'il est monté sur son bateau et qu'il est parti, et on va dire ce texte pour son enterrement. Alors nous, on était tous là, oh, c'est trop beau!
Ouais, c'est très beau. Je suis emportée.
Ah ben, bien fait.
Sur ces belles paroles, du coup, nous allons faire juste une petite pause, un instant avec une petite pause musicale. Mais Anne-Gaëlle, vous restez avec nous. On va continuer du coup l'interview. Donc tout de suite, un extrait de Yuxek et le titre, c'est Do Bejo. À tout de suite. Thank you. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Prune 92 FM, il est désormais 18h13. Dans Curiosité, nous continuons avec l'autoportrait de Angel Gaud-Duchot, artiste conteuse qui est interviewée par Priscille.
Prisca.
T'inquiète.
Désolé. Voilà. Ah ben voilà. J'ai eu un deuxième nom, c'est quand ça. Même, c'est très beau, hein, Priscille.
Bonne soirée.
Auditeur, auditrice. La lecture est une amitié. Cette citation, je l'ai tirée du livre intitulé « Sur la lecture » de Marcel Proust. Eh bien, auditeurs, auditrices, faites de la lecture votre ami. Créez donc des liens, voyagez depuis chez vous en appelant, tout simplement en écoutant des histoires au bout du fil, en allant sur le site www.histoireaubout-du-fil. Vous ouais. apporterez des corrections si...
Non, c'est tout bon.
Alors, des comédiens ou des comédiennes au téléphone lisent pour vous au creux de votre oreille, de vos oreilles, des textes d'auteurs de la région. Eh bien, quant à moi, j'en ai fait l'expérience ce matin avec la voix chaleureuse de Gérard Guérif. Coucou à Gérard. En écoutant et en échangeant avec lui sur les textes de poétesse, notamment Sibyl Orlandi, qui est d'ailleurs, j'ai été son élève aussi.
Ah bon ?
En licence 1, pour information. Ah. Auditrice de À l'Ouest, les poétesses. Également, il y avait Marina Damzanovic, j'espère que je prononce bien aussi, qui est autrice aussi de Danube. Ouais. Comme vous le dites, Anne-Gaëlle, l'expérience, il n'y a que ça qui devrait. C'est bien ça.
C'est ça. En fait, les histoires au bout du fil, c'est des comédiens, des conteurs, des chanteurs aussi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, Particulièrement, il y a cette opération qui s'appelle Lire en circuit court, qui est une opération régionale qui pour honorer les auteurs, autrices et puis maisons d'édition des Pays de Loire. Donc en ce moment, oui, on vous fait découvrir les nouveautés des auteurs, autrices d'ici.
Alors, j'ai bien aimé parce que j'ai fait le tour du monde, des couleurs, des parfums, de la nature. J'ai expérimenté en fait plusieurs formes de voyage ce matin. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous demander si vous avez fait l'expérience par vous-même. Je veux dire par là, est-ce que vous êtes passée de conteuse à auditrice, spectatrice?
Ah bah vous voulez rire.
Quel a été votre ressenti?
Évidemment, quand j'ai imaginé ce dispositif, d'abord tout le monde m'a pris pour une folle parce qu'on m'a dit mais tu veux mettre un comédien pour un spectateur, c'est pas viable. Parce que évidemment c'est que des gens qui sont pros, donc on les paye. Ils sont payés, donc il fallait trouver des financements et tout ça. Bon. Et puis après, il a fallu. On voulait des artistes qui soient des super bons artistes, mais c'était pas suffisant. Il fallait aussi qu'ils soient à l'aise au téléphone avec des gens, des vrais gens. Parce que normalement, quand on est sur une scène, on voit même pas le public. Donc voilà. Donc on a fait plein d'essais. Il y a trois équipes, la team des comédiens, la team des conteurs, la team des chanteurs. Chacun est coaché par un. Et donc, et moi qui suis la patronne de tout ça, je les ai tous écoutés. Donc j'adore. Parce que personne ne te voit, donc tu peux être sur ton canapé, les pattes en l'air, ou bien même dans ton bain, tout le monde, on s'en fout. Tu peux écouter tranquille et c'est vachement bien.
Moi, j'ai bien écouté Gérard ce matin. J'étais juste assise sur ma table avec un petit café et je prenais note. Ouais. J'ai adoré.
C'est super.
Et d'ailleurs, Gérard Guérir, est-ce qu'il... je sais que c'est l'un des conteurs qui participe à cette aventure parce que je l'ai vécu justement. Qu'est-ce que vous pouvez nous préciser sur cet
sur
artiste?
Ouais. Je vais balancer sur Gérard Guérir. Alors Gérard Guérir, c'est pareil. Donc il n'est pas conteur, mais comédien. C'est un comédien, on s'est rencontrés il y a très longtemps dans une compagnie qui s'appelait la compagnie du Fol Ordinaire, Michel Liard, qui travaillait sur les textes contemporains, justement. Qu'est-ce qu'on peut dire de Gérard? Tu l'as expérimenté, c'est un super comédien. Pour dire de la poésie, il est vraiment top. Il a juste un défaut, je ne sais pas si tu l'as vu ce matin, c'est qu'il est très bavard. Tu l'as vu?
Oui.
Normalement, le coup
Désolé,
de fil, ça
Gérard.
Dure... Normalement, le coup de fil, ça dure 20 minutes, mais avec Gérard, c'est dur, ça dure 20 minutes.
Non, mais cette fois-ci, il a respecté.
C'est vrai, il a respecté. Voilà, on sait déjà ce qu'on va mettre sur sa tombe. On mettra « Enfin, il s'est tu ».
Alors là, est-ce qu'il faut... Juste, comment on fait pour participer pour être parmi les artistes des histoires au bout du fil?
Ah, eh bien, il faut d'abord demander, et puis ensuite, je sais pas, il faut qu'on en parle. On est déjà beaucoup. Il y a une équipe qui est en train de se monter aussi en Bretagne. Il va y avoir les histoires au bout du fil, Braise. Il faut venir en parler.
Ah ouais. Je ne sais pas si c'est le même projet ou pas. Il y a une autre émission qui parle de l'existence d'un laboratoire ouvert. C'est quoi exactement?
Ah, ça c'est autre chose. Oh là là. Je vois, il y en a un qui fait un signe, j'ai le droit de parler ou bien... Oui, on peut. Okay. Laboratoire ouvert, alors ça c'est un autre truc, rien à voir. Depuis un an, je fais un spectacle qui est une expérience. C'est une expérience, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que je rentre dans la salle de spectacle et je ne sais pas du tout ce que je vais jouer. Ouais. Les gens qui achètent leur place... En prenant leur billet, ils notent sur un petit bout de papier une phrase ou bien une question ou n'importe. Ils la déposent et moi, je découvre tout ça en arrivant. Et en fonction de ça, avec ça, je raconte des histoires ou bien je chante des chansons, des poèmes. Enfin, je ne sais jamais ce qui va se passer. C'est, on pourrait dire, une performance et aussi, on pourrait dire aussi une espèce de méditation parce que c'est l'endroit le plus flippant du monde. Et j'essaye de me calmer, de pas courir en appelant maman, mais de laisser venir ce qui vient. C'est super magique. C'est un spectacle qui est super magique. Et j'appelle ça laboratoire ouvert parce qu'en fait, c'est tout le temps en expérimentation. J'ai envie de croiser ce travail avec le métier d'autres gens. Donc, je suis allée étudier comment j'ai travaillé avec des croque-morts, par exemple. Bah, ils sont en rapport avec des questions existentielles. J'ai travaillé avec quelqu'un qui est un onirologue, c'est-à-dire qui travaille sur les rêves et sur l'inconscient qui se balade entre nous dans une salle. Donc évidemment, quand je ne sais pas ce que je vais dire, j'essaye de choper quelque chose de ce qu'il y a là. Je vais travailler en fin novembre avec un magicien pour voir qu'est-ce qu'il peut... Voilà, qu'est-ce qui peut sortir de ça. Voilà, donc laboratoire ouvert, c'est ça. C'est un personnage qui s'appelle Anna Blavitskaya, qui est une espèce de folle dingue. On ne sait jamais, moi non plus, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Elle est un peu inquiétante. Elle aime le rhum et... Et voilà, et elle converse avec les esprits. Donc, voilà. Donc, fin novembre, ça fait partie de l'actualité, en fait. Fin novembre, je fais un labo avec elle, avec un magicien, pour pouvoir, au TNT, en janvier, faire des... On va faire, avec le TNT, des nuits de la pleine lune, et je serai là, avec cette folle dingue.
Alors, on est un peu pris par le temps. Juste, est-ce qu'on peut savoir, vu que nous sommes sur une radio étudiante, quel a été votre parcours de petits conseils pour conseiller nous qui sommes des étudiants et des étudiantes.
Conseiller de quoi
parcours, qu'est-ce qui a façonné votre parcours? Comment est-ce que les contes sont rentrés dans votre vie?
La seule chose que je peux dire, enfin le seul conseil valable, il me semble, hein, parce que c'est de dire que la chose vraiment, vraiment, vraiment importante, c'est de faire ce qu'on aime, en fait. Et puis d'envoyer le reste balader. Il faut faire ce qu'on aime. Après, des fois, c'est difficile. Des fois, conteuse, c'est pas le métier pour gagner plein de sous, hein. mais en tout cas, en m'appuyant là-dessus sur le fait que je fais quelque chose qui est important pour moi, qui a du sens pour moi et tout ça, je peux les moments qui sont plus difficiles ou plus risqués ou quoi, je me dis on s'en fout, je fais un truc qui me plaît, puis voilà.
Auditeurs, auditrices, faites ce qui vous plaît. Voici le conseil de Anne Goudichou. Alors, auditeurs, auditrices, du 1er au 30 novembre 2023, maison d'édition, auteur, autrice, illustrateur et illustratrice vous invite pour des événements littéraires sur l'ensemble du territoire des Pays de la Loire. Lire en circuit court est un temps fort, fédérateur imaginé pour rappeler la place primordiale du livre et de la lecture dans notre région et en montrer la richesse. Je vous invite donc à découvrir la programmation de Lire en circuit court sur le site www.mobilis-paysdelaloire.fr. C'est gratuit et c'est ouvert à tous. Bonne soirée.
Et si vous ne savez pas lire, au bout du fil.
Exactement.
Merci Prisca, alias Priscille, et également merci Anne-Gaëlle Goduchot pour cette interview. Pour rester dans l'univers du conte, on vous propose de réécouter une création sonore diffusée vendredi, le Lore des Folks. Ce sont des contes ligériens écrits et racontés par Ivy et réalisés par Cléo Kepri. Une création inspirée des contes de tradition orale collectés par le célèbre folkloriste breton Paul Sébillot à la fin du 19e siècle. Réactualiser pour leur donner une nouvelle tournure un peu moins religieuse et un peu plus queer, mais toujours locale. Dans ce premier épisode, on évoque la domesticité forcée de la nature, ses conséquences et ses alternatives, c'est tout de suite.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
C'est l'heure du lore des folks. Par ici, les fées passent se faire redorer la légende. La Dame Blanche est sans faux col. La brume se propage par fins corrigans. À l'ombre des pierres levées, venez entendre la chanson nouvelle des petits récits passés. Le trois fois trop chat. La dernière fois, on m'a raconté l'histoire d'un gars, appelons-le Marcus, qui s'en revient de fête un dimanche de soir d'été. Comme il n'avait pas vu le temps passer, il voit le dernier bus s'éloigner sans lui alors qu'il arrive route de Saint-Herblain. « Voilà bien ma peine, se dit-il, moi qui habite à Bouguenay. » Il se décide à marcher et part sur le chemin le plus éclairé. Bientôt, il entend depuis le bas-côté « Miaou, miaou !»« Allons, mais qu'est-ce que c'est ?» Il s'approche et découvre dans les fourrés une boule de poils blanche immaculée avec un museau rose et des canines de lait. Un charmant petit chat, tout peureux, tout perdu, qui à l'approche de Marcus fait « Miaou, miaou !» Marcus se penche et le caresse. Le chat fait le dos rond. Il lui flatte l'oreille. L'animal répond « Rrrr, Conquis par la tendresse, Marcus soulève le chat et le met dans ses bras. « Allons, petit compère, tu dîneras chez moi. » Les deux nouveaux amis s'enfoncent dans la nuit. L'un chantonne à l'autre des berceuses d'enfants, l'autre se laisse bercer. Sa queue remue doucement. Mais en longeant les oblates, Marcus sent ses bras lourds. Curieux, alors il s'aperçoit que... Le chat a pris du poids. Il fait la taille d'un gros matou. Puis en traversant la Loire, il sent ses bras très lourds. Étrange. Maintenant, le chat fait la taille d'un gros cabot. Et passé 30 mous, ses bras sont bien trop lourds. Le petit chaton fait à présent la taille d'un bon, d'un gros mouton. Effrayé, Marcus veut s'en débarrasser. Il tente de le poser, mais impossible. Il ne peut s'y résoudre. Ses mains sont comme collées au poil de l'animal. Allons, mais qu'est-ce que c'est que ce sort-là ? Marcus n'a pas d'autre choix que celui d'avancer, obligé de trimballer avec lui un chat démesuré. Plus il approche de chez lui, plus l'animal grossit. Ça devient insensé. Le matou devient si grand qu'il semble emporter avec son pelage la route, les champs, le ciel, tout le paysage. Suant à grosses gouttes, la chemise trempée, Marcus voit enfin sa maison au bout du sentier. Arrivé à sa porte, il se libère du chat qui reste sur le palier. Alors le chat lui dit « Ne m'avais-tu pas promis à dîner ?» Marcus est épuisé, mais il a bien trop peur pour briser sa promesse. Il lui donne du lait, il lui donne de la crème, du jambon, du pâté, des cornichons, des restes, 4 quignons de pain, 2 livres de sandou, 3 litres de rosée, des figues, de la semoule, du ketchup et du thé. Il lance les aliments de son garde-manger direct dans la bouche du chat affamé. Il donne tout ce qu'il a. Le chat n'est pas calmé. Le dîner est fini. Je n'ai plus rien chez moi.
Ne sois pas si modeste. Je peux te manger, toi.
Dis-moi, mon beau minou, ta faim a-t-elle une fin ? Tu me manges et puis quoi ? Ma maison, mon jardin, ma grange, mon tas de bois ? Qu'est-ce donc que ce sort-là ?
C'est que je suis très chagrin. Notre mère est partie loin chasser. 3 nuits et 3 matins, moi et mes 2 adelphes, nous avons 3 fois faim. Pour avoir plus de chances de croiser quelqu'un, nous nous sommes séparés, avons pris 3 chemins. Tu m'as ramassé là, j'avais...
Chers auditeurs, auditrices, il est désormais bientôt 18h30 et c'est bientôt la fin de Curiosité sur Prune. Eh oui, merci infiniment de nous avoir écoutés. Nous avons été ravis de passer une heure en votre compagnie. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier de nouveau toute l'équipe qui était présente. Donc Prisca et non Priscille, Enzo, du coup, Esteban, Titouan, du coup, également à la réalisation et supervisé par Constance. Sans oublier, bien évidemment, nos invités du jour, à savoir Ingrid Morel pour le festival Nature Nomade et également Anne-Gaëlle Gauduchot pour lire en circuit court. Sachez que vous pouvez retrouver toujours notre podcast directement avec le déroulé de l'émission ainsi que les sources sur prune.net. On se retrouve dans tous les cas lundi prochain, même heure. D'ici là, prenez soin de vous et restez à l'antenne car tout de suite, c'est l'œil politique à 19h avec la playlist. Ciao, ciao!
curiosité. Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 et en podcast sur prune.net.